Alors, bon après-midi à tout le monde. Avant de commencer le sermon, j'aimerais peut-être faire un petit commentaire concernant l'offrande spéciale. Pour le moins qu'on puisse dire, frères et sœurs, c'est que ça se présente très bien. Alors, je me rappelle la deuxième fois où nous avons eu une offrande spéciale. J'avais été surpris de la façon dont, en fait, surpris agréablement de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Les gens avaient été encore plus généreux avec moins de temps. Le pourcentage d'augmentation de la deuxième offrande par rapport à la première avait été plus grand que le pourcentage de croissance dans l'Église. Alors, si je me souviens bien, nous avons eu notre première offrande à la fin de 2002 jusqu'au début de 2003 et la deuxième à la fin de 2004 et au début de 2005. Ensuite, nous avons cette troisième qui, je crois, sera la dernière avant la toute dernière qui sera juste avant que nous fuyions. Alors, nous avons cette troisième ici, fin 2006-2007, et nous devrions, je crois, arriver à quelque chose d'à peu près équivalent à la croissance de l'Église pendant les deux dernières années, ce qui représente une somme quand même considérable, malgré que nous avons eu une très courte période pour être capable de mettre de côté. Alors, lorsque nous tenons compte de ces facteurs-là, alors la générosité a été vraiment grande. Ça a été réellement généreux. Je peux vous dire que ça va faire une différence. Et j'espère que nous allons encore continuer à finir sur un bon élan. Si vous n'avez pas encore donné ou fait votre offrande, alors ne vous retenez pas, ne vous dites pas « Ah, il est trop tard ». En fait, on peut maintenant projeter jusqu'à la fin du mois pour cette offrande extraordinaire là, qui est en train de se faire. Je peux dire que cela va nous permettre d'accélérer nos plans. Et j'ai hâte de composer la lettre aux membres et aux co-ouvriers que je devrais écrire normalement au début de février. Donc, merci. Je sais que la majorité d'entre vous entendrez ce message après avoir envoyé, expédié votre offrande. Et s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore envoyé, alors j'espère que ce message va en quelque sorte vous inspirer, de faire votre part de toutes les façons possibles. Mais, je dois vous dire, ça fait réellement une grosse différence. Et ça nous permet de devancer nos plans, et vous allez en entendre parler davantage. Alors, peut-être certains d'entre vous, m'avez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là? En fait, c'est une histoire que ma mère n'aurait jamais permis que j'oublie. Et c'est du temps où, quand j'étais jeune, mes parents aimaient beaucoup m'amener au zoo, au jardin zoologique. Je crois qu'ils m'amenaient déjà avant que mon frère soit né. Donc, ils m'amenaient au jardin zoologique, ma sœur et moi. Et moi, j'étais toujours dans le carrosse à cette époque-là. J'étais déjà trop lourd pour que ma mère me transporte. Et il semblerait que j'étais déjà capable de parler. Mais pas capable de marcher ou de me promener, de jouer alentour comme les autres enfants. Alors, ma mère me transportait en carrosse parce que je lui aurais en quelque sorte défait le dos s'il avait fallu qu'elle me transporte. Et à une occasion, il m'avait amené voir les éléphants. Alors, c'était la première fois. Et je me souviens pas réellement de cela, mais il semblerait que je pouvais parler, et je leur disais, mais je ne peux pas voir l'éléphant. Alors, ils ne cessaient de me décrire l'éléphant, mais je ne pouvais pas le voir. C'était tout simplement trop gros. Il semblerait que tout ce que je pouvais voir, c'était une espèce de grosse masse grise qui était juste l'autre côté des barreaux. Et malheureusement, ça a été une terrible et même horrible faute à faire pour un jeune garçon, parce que pour le restant de ma vie, à toutes les fois qu'il y avait quelque chose que je n'étais pas réellement capable de comprendre, et peu importe les personnes qui pouvaient nous entourer, ma mère se tournait vers moi et me disait, jusqu'à sa mort, quand j'étais dans la quarantaine, elle me disait, « David, c'est un éléphant! » Dans le fond, parfois je me prends à penser que j'aimerais revivre cette première expérience-là, de façon à être capable de voir l'éléphant. Et si je n'étais pas capable de voir, je pense que je dirais que je suis capable de le voir. Ça m'aurait évité d'entendre ça tout le temps. Parce que même mon épouse, de temps à autre, me le dit. Et cela sans permission. Alors, c'est en quelque sorte un peu une introduction, parce que les gens savent qu'il y a en gros deux sortes d'éléphants qui sont énormément gros. Vous avez les éléphants d'Afrique et vous avez les éléphants d'Asie. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un sermon à propos des éléphants, mais ça sert d'introduction. Donc, ils sont énormes, ils sont puissants, ils sont capables de transporter des troncs d'arbres, ils sont capables de passer à travers un genre de forêt de petits arbustes de jusqu'à 8 à 10 cm de diamètre, pareil comme si c'était de rien. Et ils sont capables, bien entendu, de détruire des villages entiers. Ma tante, il y a environ un an, a été dans un safari. Et c'était au Botswana, dans la steppe, vraiment, là, dans la brousse. Alors, elle était âgée de 76 ans à cette époque-là. Alors, je dois vous dire que c'était une femme vraiment extraordinaire. Et elle nous disait que les éléphants s'approchaient d'eux autres. Donc, ces éléphants-là se rapprochaient près du bord de la Clairière. Et tout le monde pouvait les voir à environ 75 pieds de distance pendant qu'eux étaient en train de déguster de bon vin. Alors, on parle ici d'un environnement différent, mais on était vraiment très près d'eux, qu'elle nous disait. Alors, tout le monde savait que les éléphants n'attaquent que très, très rarement. Il pouvait arriver de temps à autre qu'un mâle pouvait perdre la tête et, bien entendu, ça tournait à ce moment-là à la catastrophe. Alors, dans cette éventualité, il y avait des gens qui étaient là quand même avec des fusils à éléphants, juste au cas. Si vous avez déjà vu un éléphant travailler, vous êtes capable de comprendre toute la force, la puissance qu'il y a dedans. Alors, on sait qu'un éléphant asiatique, par exemple, va peser dans les environs de 3 tonnes, tandis qu'un grand mâle africain serait plutôt du double, environ 6 tonnes et plus. Alors, ce sont d'énormes animaux, extrêmement massifs. Les défenses, à elles seules, pèsent des centaines de kilogrammes. Donc, ce sont donc des animaux énormes, gigantesques, et malgré tout, relativement sensibles. Juste leur trompe possède au-delà de 700 muscles. Ces muscles-là leur donnent non seulement de la puissance, mais aussi beaucoup de sensibilité. Un cornac va généralement être la personne qui les conduit, et il est capable de les faire tourner avec tout simplement des petits coups sur la trompe. C'est la façon de les contrôler, que ce soit lors d'un cirque, ou que ce soit en train de travailler à transporter des choses, ou à les ramener tout simplement dans leur stall, où ils habitent, où ils se tiennent. Alors, ça demeure quand même relativement incroyable de voir comment on est capable de faire bouger un éléphant d'une telle masse avec si peu. Alors, laissons de côté maintenant les éléphants et parlons des chevaux sauvages. Alors, c'est fascinant de savoir et d'avoir vu, en fait, il y a quelques semaines, 6 semaines maintenant, alors que nous étions en voyage, d'avoir vu sur une île près des côtes de la Caroline des chevaux sauvages. Alors, nous étions sur le bord de la côte et nous regardions les îles à l'endroit où les bateaux de Barbe Noire avaient sombré. Alors, c'est un endroit où vous avez des courants très, très forts. Et on nous avait dit que vous aviez des chevaux sur ces îles-là qui étaient là depuis les années 1600. Alors, c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, pas mal étonnant. Hein? Ça fait presque 400 ans. Hein? Alors, les gens les avaient tout simplement laissés là sur l'île. Et je me demandais, ils vivent là? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de chevaux. Mais les gens vont aller les chercher, par exemple, en laisser d'autres là, et ils vont continuer à se reproduire. Alors, on peut se poser, comment font-ils pour avoir de l'eau? Alors, la réponse à cette question, c'est que tout simplement, ils vont prendre leurs pattes, leurs sabots, ils vont gratter, puis ils vont tout simplement voir ce qui arrive là, ce qui en sort. Alors, ils réussissent comme ça à faire sortir une espèce d'eau saumâtre qui est là, qu'ils vont boire, et ils vont se nourrir des herbes sauvages qui poussent sur l'île. Il n'y a jamais personne qui ont voulu dompter ces chevaux sauvages qui étaient sur l'île, malgré qu'ils pourraient l'être. Ils pourraient être domptés. On sait qu'il y a certaines personnes qui sont très habiles à faire cela. Par contre, les zèbres, qui font partie, on peut dire, de la même famille que les chevaux, et vous allez entendre dire ça partout, par tout le monde, qu'ils ne peuvent être domptés. Alors, ils agissent comme des chevaux, mais ils ont l'air de chevaux. Ils courent comme les chevaux. Ils vont hennir comme les chevaux, mais vous ne pouvez pas dompter un zèbre. Alors, les gens ont bien essayé, et vous pouvez essayer d'imaginer combien de travail pourrait être fait si vous étiez capable de dompter ces zèbres-là, étant donné leur nombre. Alors, c'est étrange, impossible à dompter, et personne n'a jamais compris pourquoi on ne peut les dompter. Est-ce parce qu'ils sont trop stupides? Je ne sais pas. Ou est-ce parce qu'il y a quelque chose de sauvage en eux, que la nature, qui est selon leur propre nature? Alors, peut-être qu'il leur manque quelque chose. Et d'un autre côté, ils sont peut-être pas stupides, c'est peut-être les plus intelligents des chevaux. Puis ils se disent, si jamais on me dompte, je perds ma liberté. Alors, je ne les appelle pas des chevaux ici, là. Je leur dis tout simplement qu'ils font partie de la même famille. C'est une évidence en les regardant. Mais ce sont des animaux qui sont exactement et très puissants aussi. Mon frère a déjà tiré un zèbre à un moment donné qui se sauvait. Il avait pourtant une carabine qui était extrêmement puissante, mais l'animal continuait à se sauver. Et pourtant, il l'avait frappé bien correct. Il l'avait tiré, disons qu'il l'a tiré dans la région sud d'un zèbre qui allait vers le nord. Et ça ne l'a même pas ralenti. Et pourtant, une carabine aussi puissante que ça aurait permis à la balle de voyager à l'intérieur toute la longueur de l'animal. Alors, cela ne l'avait même pas arrêté. Même si la balle pouvait arriver dans la poitrine par l'intérieur et exploser, il a couru plusieurs centaines de mètres supplémentaires. Et le guide qui était avec mon frère l'avait regardé et a dit, ils sont durs, voilà, ils sont durs. Alors, ça vous donne une idée de toute l'énergie qui pourrait être utilisée si on pouvait les dompter. Mais en fin de compte, le zèbre est tombé et j'ai pu voir la peau de ce zèbre-là dans sa maison. Alors, je vous demanderai de conserver ces histoires à l'esprit ici, parce que Dieu nous voit, nous, comme des étalons qui n'ont pas été entraînés et qui ne sont pas domptés avant notre conversion. Nous sommes comme des taureaux bramas, ou comme des éléphants sauvages, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'habileté. Avant notre conversion, nous avons de nombreuses ressources humaines, plusieurs talents et habiletés, et nous sommes des aides potentielles pour son œuvre et son peuple. Et pourtant, nous sommes absolument inutiles pour Dieu avant que nous soyons amenés sous son contrôle. Alors, réfléchissez à cela pendant quelques instants. Alors, on ne parle pas ici, encore une fois, d'éléphants ici, ou de chevaux sauvages, ou de taureaux bramas, ou quoi que ce soit. Nous parlons d'êtres humains. Mais j'utilise des analogies ici. Parce que franchement, nous avons beaucoup d'habilité, bien plus d'habilité que n'importe quel de ces animaux-là. Bien entendu, je ne parle pas de la force brute ici, mais nous pouvons être de beaucoup plus grande utilité pour Dieu. Alors, on sait que Dieu pouvait parler par la bouche de l'âne de Balaam, ou encore qu'il pouvait susciter des pierres pour Abraham, mais ce sont toutes des choses qu'il peut faire. Mais il a choisi de ne pas faire cela. En fait, nous possédons beaucoup plus d'habilités et de capacités pour Dieu que des roches ou encore des animaux. En fait, nous sommes littéralement remplis d'habilités, de talents, et nous pouvons contribuer à son œuvre et aider son peuple, mais, je le dis encore, nous sommes tout à fait inutiles si nous ne sommes pas amenés sous contrôle. Alors, vous vous souvenez sans doute la semaine dernière que j'ai fait allusion au fait que nous développions même rapidement, et je veux me servir de ça pour vous présenter quelques affaires nouvelles, nous développions rapidement un autre plan d'opération ou plan opérationnel pour la deuxième commission. Alors, nous sommes toujours en train de travailler sur notre plan opérationnel pour la première commission, et il prend toujours de l'ampleur. Et tout ce qui se passe présentement en regard de cela sont réellement dramatiques. Ça avance extrêmement rapidement. Je suis certain que vous serez enthousiasmés lorsque vous en entendrez parler. Mais pour le moment, retournons à ce plan pour la deuxième commission. Généralement, nous parlons surtout de la première commission, mais la deuxième renferme également des plans et des projets qui sont très excitants. Et c'est quelque chose qui va toucher les gens du peuple de Dieu partout à travers la terre. Alors, nous sommes en train, ou dans le processus de sélectionner des gens, des hommes, bien que nous ne les contactions pas pour le moment, à l'exception peut-être d'un ou deux que nous avons contactés. Et nous avons l'intention d'en contacter d'autres d'ici les deux ou trois prochains mois pour leur parler, pour vérifier, pour leur dire qu'ils pourraient être peut-être, même sans doute, être des candidats pour le ministère à temps plein. Et en ce qui concerne ces hommes, bien qu'ils ne sachent pas encore exactement de qui nous parlons, je leur dirais, écoutez très soigneusement ce sermon-ci. Ça risque d'être utile. Et je veux conclure que d'ici un mois et demi, deux mois, un peu avant, après ou pendant la période de la Pâque, je vais donner un sermon complet sur ce plan opérationnel sur la deuxième commission. Et ça promet d'être excitant. Nous avons besoin, nous devons avoir des ministres à plein temps qui vont être des bergers sur le peuple de Dieu à travers le monde entier. Alors, nous n'avons malheureusement pas le temps de créer des collèges. Nous n'avons même pas le temps d'être capables de mettre sur pied une faculté, encore moins trois collèges. Mais nous avons le temps de nous doter d'un programme très sophistiqué, très développé et spécifique au point d'être raffiné de manière à non seulement entraîner des hommes, mais aussi éviter des erreurs passées et faire en sorte qu'il n'y ait plus 2000 personnes qui tombent dans le précipice, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la majorité, dans la totalité ou même en partie. Alors, je dis ceci parce que j'aimerais que tous les hommes autour du monde, ou peut-être ces jeunes hommes là, qui se disent, je ne sais pas si Dieu peut m'utiliser. Je sais ce qu'ils pensent. C'est le genre de pensée que j'avais, moi, il y a 40 ans. Et peut-être qu'ils pensent, j'aimerais, moi, avoir le poste, je veux dire par là, le travail du ministère. Pas nécessairement le poste, là, mais le travail. Et le poste vient avec. Et s'il y a de tels hommes, et que vous pensez que vous pouvez être un de ceux-là, alors je vous dis, écoutez attentivement, plus attentivement. Bon, alors retournons maintenant à ce que nous disions. Nous étions tous sauvages, et plutôt dans la jungle, il y a déjà de cela un certain temps. Et selon notre degré de conversion actuel, nous sommes toujours plus ou moins ainsi aux yeux de Dieu. La conversion, frères et sœurs, et le christianisme, si on peut parler ainsi, consiste à laisser Dieu nous mettre à sa main, nous entraîner et nous amener sous son contrôle. Et il fait cela de manière à pouvoir nous utiliser le plus pleinement possible, selon les intentions et le dessein qu'il a prévu pour nous. Alors maintenant, nous savons tous, et nous en avons parlé la semaine dernière également, nous ne serons pas très nombreux. Nous avons donc un plan très développé, spécifique au point d'être raffiné et très sophistiqué en place pour tous ceux qui sont les prémices. Bon, alors maintenant, tournons à Galates 5 pour le moment. Si vous voulez bien tourner là, Galates 5. Alors, non seulement ces deux versets-là dont je vais parler, on pourrait dire qu'il y aurait même jusqu'à 9 sermons différents. D'une certaine façon, nous pourrions dire que le présent sermon est un de ceux-là. Alors, Galates, chapitre 5 et au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, c'est pas tellement compliqué. On a juste à regarder à l'extérieur. Je m'en mets à l'Assemblée ici aujourd'hui et je roulais en arrière d'une voiture qui elle-même était en arrière d'une autre voiture. Et la voiture, le conducteur qui était en avant de moi, fait un signe à une personne qui voulait sortir du trafic pour lui donner la place. Et l'autre était très content, hein? Merci. Et il lui envoya la main pour le remercier. Mais au moment où l'autre était pour entrer, celui qui était en avant de moi s'est mis à jouer avec lui et à accélérer pour être capable de lui bloquer le chemin. Et il a fait ça immédiatement après que l'autre ait pensé qu'il le laissait rentrer en lui disant faisant signe de la main. Alors, la personne qui avait d'abord cru qu'il le laissait passer s'apercevait tout à coup qu'il venait de se faire avoir par celui qui lui avait fait signe d'en rentrer. Alors, il était plutôt en colère. Il lui a envoyé encore la main, sauf que cette fois-là, il n'a pas utilisé tous ses doigts. Mais je peux vous dire qu'il était fâché. Alors, il s'est mis à accélérer et puis il était en avant de ce gars-là qui est en avant de nous. Et une fois rentré, il s'est organisé pour se rapprocher. Puis je voyais ce qu'il voulait faire. Il voulait se rapprocher de la personne et mettre les freins à fond. Il voulait envoyer un message au gars. En fait, ce que j'étais en train de voir, c'était une courte sermonnette au sujet de la nature humaine, là. Et cela m'a fait penser au sermon que je vous donnais aujourd'hui. Et je me suis dit, on a des broncos sauvages en avant de nous. Faisons attention. Prends des précautions. Reste un peu plus loin à l'arrière. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais éventuellement, le conducteur en avant s'est éloigné en accélérant, tout en brassant la tête d'un côté et de l'autre. Et celui qui était juste en avant de nous, lui, tout simplement, s'amusait et il semblait sourire suite au tour qu'il venait de jouer à l'autre personne. Alors, pour revenir où nous étions, dans Galates 5, nous lisons à propos de ces œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et nous pouvons penser à toutes les autres choses qui sont similaires à celles-ci. Alors, il s'agit de toute une liste ici. On en retrouve d'autres listes dans la Bible. Vous en avez une dans Marc 7. Vous avez également une autre liste dans Romains 1. Et vous en avez une ou deux également dans Colossiens. Mais nous venons de lire une longue liste des côtés mauvais et laids des gens. Et si nous poursuivons, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, et le mot ici grec, c'est makrotumia, qui signifie une patience à toute épreuve, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a une relation entre douceur et tempérance. Et je me suis demandé si ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a inspiré de les écrire l'un après l'autre. Alors, ils ne sont pas placés là en dernière place, tout simplement parce qu'ils manquent d'importance. Au contraire, ce sont deux fruits qui sont d'une importance capitale. Alors, je ne voudrais pas donner de préférence à un fruit de l'esprit plutôt que l'autre, sauf peut-être à l'amour, parce que Dieu nous dit que sans l'amour, nous ne sommes rien, que c'est le plus important. Oui, correct. Et je dirais que la fidélité, qui signifie la foi aussi, est très important parce qu'on parle justement que l'amour, l'espérance et la foi sont très importants, mais c'est l'amour qui est en premier. Oui, aussi la foi. Alors, nous savons que Dieu est amour et que nous devons avoir une foi entière en lui. Alors peut-être que possiblement, je dis bien possiblement, nous pourrions dire que ces deux-là sont les plus importants. Mais nous sommes tout aussi bien d'avoir tous les autres aussi. Et je pourrais même sans doute être capable de prouver que la douceur est quelque est un des fruits importants, sinon plus important que bien d'autres. Et on pourrait définir la douceur comme étant littéralement la capacité de devenir sous le contrôle, de se mettre sous le contrôle de Dieu. Si vous voulez donner une définition à la douceur, voilà ce que c'est. Elle est directement reliée à l'humilité et c'est en venir à être totalement sous le contrôle de Dieu. C'est de cette façon que nous devenons entre ses mains un vase pour être capable d'accomplir son dessein à notre égard. Bon, et maintenant, je suppose qu'on pourrait dire que la maîtrise de soi est la meilleure façon dont nous pouvons décrire la tempérance. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, mais bien entendu, encore une fois, avec la puissance de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui vous donne la capacité d'être tempérant. Autrement dit, de vous contrôler, de contrôler votre humeur, votre tempérament. Alors, jetons un coup d'œil ici sur la différence. La douceur, c'est pouvoir s'enlever du chemin de façon à ce que vous puissiez servir à la façon dont Dieu veut vous utiliser. La tempérance est différente. Elle implique un contrôle, mais un autocontrôle sous la puissance de Dieu en ce qui concerne votre propre conduite. Elle reste une puissance donnée par Dieu. Mais Dieu vous dit, je te donne du pouvoir, mais je m'attends à ce que tu te contrôles toi-même. Te retenir quand tu dois le faire et te contrôler dans les autres occasions. Autrement dit, tout en te mettant sous mon contrôle dans l'ensemble, ce qui est le fruit de la douceur, je veux voir si tu pourras te contrôler toi-même en vue du dessein que j'ai pour toi. C'est la tempérance. Alors, gardez ça présent à l'esprit. Alors, Dieu veut que nous nous placions nous-mêmes sous son contrôle. Donc, une des choses que nous devons faire en ce qui concerne la maîtrise de soi, où nous devons agir en nous contrôlant, est de nous assurer que nous nous mettons constamment, il s'agit ici de la tempérance, là, qui nous mène directement à la patience, que nous nous mettons constamment entre les mains de Dieu de manière à ce qu'il puisse vous utiliser ou nous utiliser de la meilleure façon possible. Dieu ne veut pas nous décourager. C'est souvent ce que nous faisons avec un cheval, d'une certaine façon. Certains d'entre eux sont châtrés. Vous savez ce que cela signifie. Et Dieu ne veut pas nous faire une telle chose, ni nous rogner les ailes ou nous empêcher d'avancer. Ironiquement, la façon dont Dieu veut que nous en arrivions à être sous son contrôle, c'est en nous épanouissant d'une façon qui dépasse tout ce que nous avons pu imaginer. Techniquement, si les animaux pouvaient comprendre cela, ils auraient les mêmes sentiments. Si un éléphant pouvait comprendre, j'ai été mis sur terre avec 7000 kilos de force extraordinaire, qu'est-ce que je peux faire avec cela, si un éléphant pouvait penser, je crois qu'il apprécierait le fait d'avoir été amené sous le contrôle d'un entraîneur pour transporter des billes, tirer des grands fardeaux ou encore retourner une voiture. Les chevaux penseraient la même chose. Les taureaux bramas feraient de même. Un des animaux les plus dangereux du monde et est aussi un des plus forts. Ils peuvent peser, à ce que j'ai entendu, 1000 à 1500 kilos, peut-être même 1800. Je me trompe peut-être là-dessus. Là. C'est ce qu'on appelle les buffles du Cap. Ils possèdent un très mauvais caractère. Je suppose qu'ils sont pour le bétail ce que le zèbre est pour les chevaux. Il est impossible de les dompter. Ils sont toujours en colère et méchants. Ils font partie des animaux les plus dangereux au monde. En fait, j'ai entendu dire qu'ils étaient même plus dangereux que les ours polaires. Un ours polaire est une bien mauvaise rencontre. Vous ne voulez pas en rencontrer un, à moins, je pense, d'être dans un gros igloo et d'être habillé tout de blanc pour qu'il vous prenne pour de la neige. Mais ce que Dieu veut, dans le fond, c'est que nous soyons sous contrôle et que nous soyons utilisés d'une manière utile. Il veut que nous nous épanouissions. et que nous devenions tout ce que nous pouvons être. Être assujettis à Dieu, parlons clairement ici, et voir nos propres pensées, opinions, croyances, philosophies et idées amenuisées et éventuellement amputées, signifie que nous pouvons en venir à être améliorés et devenir un membre de la famille de Dieu. Alors, si Dieu veut vous, entre guillemets, amenuiser dans un tel but, ce n'est certainement pas pour vous rogner les ailes, ou vous retenir, ou encore vous décourager, ou même, en parlant de façon spirituelle, nous châtrer. Ce n'est pas le genre de chose qu'il veut faire. En fait, il n'a absolument aucun intérêt à faire une telle chose. Mais par contre, il veut que nous comprenions. Il veut que nous comprenions. Et tout cela a commencé, on pourrait dire, dans Genèse 2. Tournez à Genèse 2. J'aimerais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 2. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, nous voyons que le sabbat est présenté au début du chapitre 2. Ensuite, nous venons, descendons au verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors, c'est un sujet qui pourrait donner place ou faire place à toute une discussion scientifique. Et au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, un nephesh, l'âme, une âme vivante. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. L'homme est simplement fait de terre. Et, bien entendu, Dieu a nommé l'homme qu'il avait créé Adam. Or, Adam, la signification d'Adam, c'est de l'argile rouge, ou poussière, ou boue. En fait, la boue, c'est de la poussière, si c'est sec, si elle est sèche. Donc, Dieu créa Adam. En fait, on le dit Adam, Dieu créa un homme, et il l'a appelé Adam. Et il a fait ça pour une raison particulière. Alors, comme je l'ai mentionné, Adam signifie de l'argile rouge, la poussière, un peu de boue. Avant que je ne commence là, remarquons que Dieu a commencé dès le départ. Réfléchissez à ça. En voulant communiquer à Adam la douceur et l'humilité, afin d'utiliser Adam dans quelque chose d'important. On a tendance à penser à Adam en disant « il s'appelle Adam ». Oui, et il y a bien des gens qui portent le nom d'Adam. J'en ai connu plusieurs. Et quand nous disons « Adam », nous en oublions le sens. Mais avant de discuter de cette question-là, j'aimerais la clarifier un peu. Les gens qui pensent que le nom de Dieu doit toujours être prononcé en hébreu croient que le nom de Dieu est un nom hébreu. Or, je ne sais pas quand l'hébreu a été inventé. Sans doute parle-t-on en milliers d'années ici, mais peut-être est-ce lors de la tour de Babel, par exemple, ou peut-être est-ce quelque chose qui lui ressemblait à ce moment-là. Donc, Dieu a commencé à travailler avec les gens, comme il l'avait prévu, et ces gens parlaient l'hébreu. Alors, Dieu donna son nom en hébreu. Il a fait de même pour ses autres noms, Adonai, Rapha, Jiré, ainsi que les nombreux autres noms de Dieu, qui tous ressemblent à de l'hébreu. Tout cela n'a pas de signification pour moi. Si Dieu me dit « Je m'appelle Yahvé Rapha », qu'est-ce que ça veut dire? Dieu me guérit. Je suis celui qui vous guérit. Ah, là je vois. Maintenant je comprends. Certaines personnes pensent que nous devons conserver le langage hébreu, sans quoi nous n'utilisons plus le nom de Dieu. Dieu dit qu'il s'appelle Jéhovah. Bien entendu, il y a plusieurs problèmes avec ça. Ce n'est pas le sujet du sermon ici. Mais l'hébreu n'a pas de voyelle. Alors, on en est rendu à deviner. Et Dieu nous dit pratiquement, en choisissant l'hébreu, que nous ne pourrons sans doute jamais prononcer son nom parce qu'il a choisi la langue qui n'a pas de voyelle. Alors, cela entraîne tout un tas de discussions sur la façon dont on devrait prononcer son nom. Si vous voulez le savoir, les gens des noms sacrés sont divisés. À savoir si on doit prononcer Yeshua, Yahshua, Jéhovah, Yahvé, etc. Ils ne peuvent marcher ensemble car ils ne comprennent pas réellement la question. Ils ne comprennent pas que Dieu veut que nous prononcions son nom en français, en allemand, en espagnol, en anglais, pour que cela ait du sens. Lorsque j'entends le nom de Dieu comme Dieu ma bannière, Dieu éternel, c'est-à-dire qui vit à jamais, ou Dieu qui guérit, alors cela signifie quelque chose pour moi. Autrement dit, Adam n'a aucun sens si vous ne faites que prononcer ou penser à son nom comme étant seulement Adam. On doit comprendre ce que Dieu disait lorsqu'il lui disait « Tu t'appelles Adam ». Voyons ce que Dieu lui disait. D'abord, Adam était tout excité. Il disait « Wow, je suis vivant ». Il était un adulte physiquement mature. Il n'était pas comme moi au jardin zoologique, comme vous quand vous étiez un petit bébé. Il était totalement conscient qu'il était un être humain pleinement développé. Puis il demande à Dieu « Comment je m'appelle ?» Dieu se retourne et lui dit « Motte de terre ». Alors voilà exactement ce qu'il lui a dit. Adam a dû comprendre. On ne va pas appeler quelqu'un « Hé, motte de terre » ou on ne va pas le traiter de « tas de poussière » ou de « motte stupide ». Vous avez déjà entendu ce genre d'expression-là. Mais quand on y pense, Adam a vécu toute sa vie, pas avec un surnom, c'était sur son certificat de naissance, un certificat écrit par celui qui avait l'autorité de le faire, motte de terre. Et il n'avait même pas de nom de famille pour compléter tout ça. Vous connaissez le mot « humilité ». Savez-vous que le mot « humilité » vient du mot « humus » Vous savez ce que c'est, l'humus? On parle de matière, là, dans le sol, la poussière, une motte de terre. Cela signifie réellement terrestre. Si vous avez de l'humilité, vous savez que vous êtes fait de poussière. Donc, depuis les tout débuts, le tout premier patriarche de la famille humaine s'est fait dire, dès le début, de se considérer comme une motte de terre. Bon, je ne sais pas combien dans l'Église voudront nommer leur fils Adam, hein, après avoir entendu cela, mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est un très beau nom. En fait, c'est un nom extraordinaire. Mais Adam n'a pas compris la signification de son nom. Et le reste de sa vie est le reflet de cela. Il a raté son coup. Raté. Il est passé complètement à côté. Alors, tournez à Jacques 3. Jacques 3. Et essayons de jeter un coup d'œil sur quelque chose que nous n'avons pas vu la semaine dernière. Alors, Jacques 3, nous y avons touché à cela un petit peu la semaine dernière. Jacques 3 et verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. J'écoutais à la télé hier soir des vents de tempête, je crois que c'est des vents de 120 000 à l'heure, c'est-à-dire environ 200 km à l'heure. Des vents plus forts que jamais depuis 17 ans et qui ont vraiment semé la dévastation partout en Europe. Alors on parle des dommages pour des milliards et des milliards de dollars, complètement à traverser l'Europe. Ça a commencé par exemple en Angleterre et puis vous avez ce bateau complètement chargé là, qui a commencé à verser. Alors, les gardes-côtes ont été obligés d'envoyer des gens pour être capables de sauver l'équipage qui était là-bas dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Alors, je n'ai pas entendu si le bateau avait coulé ou non, mais ils ont dû abandonner le bateau et peut-être que celui-ci a coulé. Alors, c'était un bateau qui était rempli à pleine capacité de remorques, de camions pleines. Alors, tout est parti, tout est tombé. Verset 5, « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Dieu veut que nous nous soumettions à lui, avec humilité, et reconnaître que ce mort a été mis là dans un but particulier. Si un cheval est très sensible, parce que la bouche d'un cheval est sensible, et j'ai souvent fait d'équitation quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup cela. Je ne sais combien de centaines de chevaux j'ai montés. Ma sœur aînée faisait la même chose. Et j'étais encore assez jeune pour vouloir la copier, faire la même chose qu'elle. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé à monter à cheval. Je n'oublierai jamais la toute première fois que j'ai monté ce cheval. J'étais avec mon ami Roger. Il était assis en avant de moi et ce cheval est parti. Et Roger, la selle et moi-même sommes tombés par-dessus la croupe et sommes tombés directement par terre. Je suis tombé sur le dos, et Roger était par-dessus moi. J'avais environ 8 ans, je crois. Donc, ma première expérience à cheval a été d'abord d'avancer 3 ou 4 mètres, puis la sangle s'est brisée. Je me souviens encore du nom de ce cheval, il s'appelait Trixie. En fait, comme son nom le dit, il nous a joué un tour. Mais éventuellement, nous sommes remis en selle, nous avons réparé la sangle et nous avons pu nous rendre plus loin, continuer notre promenade. Mais je me rappelle comment est-ce que j'aimais les chevaux et avoir appris que, normalement, les chevaux vont faire ce que vous lui dites de faire. Alors, je ne fais plus d'équitation. J'ai toujours aimé ça et je n'en fais plus à cause des problèmes de dos que j'ai. Et j'ai fait beaucoup de choses sur les chevaux, des choses que je ne voudrais même pas que vous voyiez. En fait, j'ai monté des chevaux à pleine vitesse dans des sentiers de montagne. Alors, j'ai fait des choses que jamais je ne referais. Là. Vraiment, là, me pencher, éviter des branches qui étaient là à pleine course, des branches qui auraient pu tout simplement me transporter, me jeter à terre complètement. Souvent, je me suis dit à quoi je pensais, en réfléchissant à ce que mon frère et moi avions fait en conduisant ces chevaux à pleine vitesse dans de telles conditions. Et en fin de compte, tout revient à savoir le degré avec lequel nous connaissons ce cheval-là, le cheval que nous montons. Il m'est arrivé, par exemple, avec un cheval dans la plaine, de tout simplement le laisser aller complètement, à pleine vitesse. Je me penchais sur lui, je laissais aller les rênes sur son cou, et je lui disais, « Allez, vas-y! » Je lui donnais des petits coups d'étrier, et je lui disais, « On va voir jusqu'où tu es capable d'aller, à quelle vitesse! » C'est une expérience vraiment extraordinaire, mais vous devez très bien connaître le cheval. On sait que dans des cas comme ça, ça peut arriver que le cheval mette la patte dans un trou d'une façon dangereuse, et puis tout simplement, il trébuche, puis vous partez à voler, vous aussi, et on sait ce qui est arrivé à certaines personnes. Mais malgré tout ça, on se rappelle, la bouche d'un cheval est toujours quelque chose de très, très sensible. Juste tirer un peu d'un côté ou de l'autre, et vous êtes capable de contrôler cet animal très puissant. Alors, on parle de 700 à 800 kg ici. Vous avez les Clydesdale et les Percherons, qui sont encore plus gros, des chevaux de travail, des chevaux de trait, qui peuvent atteindre les 900 à 1200 kilos. Et malgré cela, vous n'avez qu'à donner un petit coup et il obéisse. Le cheval va faire ce que vous lui dites de faire. Alors, je dis ça pas parce que je suis un grand cavalier, mais parce que j'ai eu l'occasion de monter de nombreux chevaux pendant ma vie, à faire des choses, comme j'ai dit, que j'aurais jamais sans doute dû faire, mais j'ai quand même tiré des leçons de cela. Et cela m'a aidé à apprécier réellement la valeur de ce que Jacques dit dans Jacques 3, au verset 3. Alors maintenant, rendons-nous dans Nombre 12, verset 3. Nombre 12 et au verset 3. Nous allons parler d'une couple de personnes, en commençant d'abord par Moïse, Nombre 12 et au verset 3. Alors on voit ici Myriam et Aaron qui parlaient contre Moïse. Et ils parlaient entre autres de la femme éthiopienne que Moïse avait mariée, ou qu'il l'avait mariée dans le passé. Peut-être qu'elle était encore en fait avec lui. Il disait, entre autres, au verset 2, « Est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? » Autrement dit, « Regarde ce que tu as fait. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Mais il y a un problème qui est survenu. C'est écrit ici, « L'Éternel l'a entendu. » Il a entendu ce qui s'est dit. Verset 3, « Or, Moïse était un homme fort patient. » Et le mot hébreu ici est utilisé soit selon les endroits, soit comme patient ou soit doux. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, Moïse avait de la douceur, de la patience, et c'est un des traits de caractère dont il a fait preuve plus tard, réellement dans sa vie. Alors, ce n'était pas une des qualités pour lesquelles il était reconnu au début. Alors, rendons-nous dans Acte 7. Acte 7, nous allons parler un petit peu plus de cet homme, Moïse. Ensuite, nous jeterons un coup d'œil sur une autre personne. Alors que nous regardons des exemples d'hommes extrêmement forts, très forts, que Dieu a soumis. En tant qu'être humain, Moïse était réellement un homme phénoménal. Ce qu'on pourrait appeler un taureau Brahma sauvage. Alors, c'était quelqu'un que Dieu pouvait utiliser d'une façon absolument extraordinaire. Autrement dit, si Dieu a vraiment un but, un dessein particulier et extraordinaire, il est souvent obligé d'utiliser ce qu'on pourrait appeler un taureau sauvage pour le réaliser, aussi extraordinaire. Alors, des gens qui ont une nature qui est très forte, pas comme le genre de chevaux Clydesdale dans les expositions à qui on est obligé de donner peut-être des petites potions pour être capable d'y tenir tranquille. Veuillez tourner la cassette, s'il vous plaît. À qui on est obligé de donner des petites potions pour les faire tenir tranquilles. L'homme avec lequel Dieu a commencé n'était pas une chiffre molle. Il a commencé en utilisant un homme qui possédait une personnalité qui était extrêmement forte. Alors, rendons-nous dans Actes chapitre 7 et au verset 22. Alors, on lit à partir du verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et on parle ici de l'empire dirigeant mondial de l'époque. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alors, nous avons ici un homme que nous considérons souvent comme quelqu'un qui bégayait. Autrement dit, la parole, ce n'était pas sa force. Mais peut-être a-t-il commencé à bégayer plus tard. Peut-être est-ce qu'il le faisait au début, je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'ici, on voit qu'il dit qu'il était puissant en parole. Autrement dit, je suis pas mal certain qu'il n'était pas comme Mel Tillis tout le jour. Si vous connaissez Mel Tillis. Et il est ajouté ici, et en œuvre. Et nous avons une personne qui a été élevée ici à la cour de Pharaon. On en vient à dire que c'est un peu comme s'il était le second homme le plus puissant du monde. Je ne sais pas, est-ce que vous croyez que cela faisait appel à sa vanité? Que Moïse avait de la vanité? Il avait été instruit par les meilleurs professeurs qui pouvaient exister à l'époque. Et on parle ici de toute la sagesse des Égyptiens. Il s'agissait ici d'un général de grande réputation, un dirigeant extraordinaire et un grand orateur qui semblait apparemment être très intelligent, sans compter toute la puissance qu'il avait sous sa main. En fait, ce que nous venons de décrire ici sont les premières 40 années de Moïse. 40 ans. Alors, tournons maintenant à Exode, chapitre 2, verset 11, et jetons un coup d'œil sur un côté un peu moins appétissant de Moïse. Exode 2, et verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors, parlant de ses frères de race ici. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors, ce n'était pas vraiment la meilleure des choses à faire ici. Il semblerait qu'il avait un très mauvais caractère. Peut-être est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose de moins drastique, hein, de moins dramatique. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, nous voyons plus tard qu'il avait encore des fois ce caractère-là, entre autres quand il avait frappé le rocher. Mais nous voici en présence d'un homme puissant, rempli d'adrénaline, qui tue inutilement un autre être humain. Parce qu'il aurait pu tout simplement dire, « Wow, minute, je suis Moïse, ôte tes mains de sur cet homme. » Autrement dit, il aurait pu utiliser une autre façon de régler le problème. Mais Dieu a permis que cela arrive, entre autres parce qu'il voulait avoir Moïse hors de l'Égypte. Bien entendu, ensuite on tombe dans l'autre 40 ans de Moïse. Cet homme qui est mort à 120 ans, on dit de lui qu'il a vécu sa vie par période de 40 ans. Alors, pour les premières 40 années, il était un homme qui était puissant en parole et en œuvre. Alors, ça s'est déroulé en Égypte. Et pour les 40 ans qui ont suivi, alors en gros, il a tout simplement été un berger de troupeaux. Et c'est à cette époque, pendant ce temps-là, que Dieu l'a mis ou l'a amené à être sous son contrôle. Alors, il avait appris pendant cette époque-là à travailler avec des brebis, et on sait que lui-même était un berger. Il était aussi prophète. En fait, c'était un grand dirigeant sous Dieu, et il était en quelque sorte un type, une représentation de Jésus-Christ. Alors, pendant cette deuxième période de 40 ans, il était dans le désert, en fait, et il se sentait plutôt du genre humus. Il était en train d'apprendre, en fait, qu'il n'était qu'une motte de terre. Alors, ça a pris 40 ans. On peut se demander combien de personnes, pour combien de personnes est-ce que ça peut prendre 40 ans avant d'être amadoué? Quand on y pense, vous aviez l'homme, le deuxième homme le plus puissant du monde, a eu besoin de 40 ans dans le désert pour être capable de vraiment être amadoué, contrôlé. Il travaillait avec les animaux, obligé souvent de se cacher. C'était vraiment une expérience qui était humiliante, qui apportait l'humilité. On peut se demander à combien de reprises cet homme a pu se dire pendant ses 40 ans, je ne comprends pas, je ne suis pas capable de croire à ce qui est devenu ma vie. Je ne peux tout simplement pas y croire. Être constamment rabattu les épaules au sol, fois après fois après fois. Pas seulement pendant quelques semaines, comme si Dieu avait eu avec lui une conversation du genre « Moïse, tu as eu beaucoup de pouvoir, maintenant humilie-toi, deviens humble. » Non, il a fallu que ça dure 40 années. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Il n'est pas facile d'être amené sous la coupe de quelqu'un. Plus le brahma est gros et sauvage, plus le temps nécessaire est long. Rendons-nous à Exode verset 3 et au verset 10, 3-10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dites-moi, qui pourrait regarder Dieu, entendre une chose comme ça, puis argumenter, pas une fois, mais plusieurs fois avec lui? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un type de brahma sauvage? D'un zèbre, pas encore capable de le dompter après 40 ans. Et il n'a toujours pas encore cette douceur. Et pourtant, malgré ce manque de patience, on connaît la fin de l'histoire. Il est l'homme le plus patient sur Terre. L'homme le plus patient, le plus doux sur Terre. Et pourtant, il y a eu un moment dans sa vie où il a tué un homme et où il argumentait avec Dieu. Vous pensez que les gens ne peuvent pas changer? Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas changer? Vous pensez que Dieu ne peut pas convaincre les gens, les changer? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Pensez-vous pas que si Dieu vous avait choisi pour quelque chose, c'est parce qu'il vous connaissait comme il faut? En fait, il y aurait même bien des chances qu'il vous connaisse assez bien après vous avoir vu vivre pendant 80 ans. Dieu a dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Bon, rendu là, Moïse a compris, hein? Il a arrêté, il n'a rien dit. Mais non, Moïse répète, puis dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Encore une fois, tout cela n'est qu'une excuse. Rien d'autre qu'une excuse. Et lui a dit, il leur dira, je suis celui qui suis, le Dieu vivant, celui qui vit de toute éternité. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et la raison de ce nom, c'est parce que les autres dieux ne sont pas du tout, n'existent pas. Il y a deux seules sortes de dieux, celui qui est et tous les autres qui ne sont pas. Autrement dit, tous les autres dieux ont un second nom. Et c'est le nom qui dit qu'il n'existe pas. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Alors, c'est une autre façon de dire que je suis le Dieu vivant, le Dieu qui est éternel, l'éternel. Il a toutes sortes de façons dont on pourrait le nommer. Dieu n'est pas limité à l'hébreu en passant, croyez-moi. Et puis si, entre guillemets, il était limité à ça, ça va tout simplement durer jusqu'au moment de la prophétie de Sophonie 3:9. Alors, ce sera le moment où il va y avoir un nouveau langage, un langage pur. Autrement dit, tout le monde, à ce moment-là, dira le nom de Dieu, prononcera le nom de Dieu dans une langue nouvelle. Et ce sera « adieu » à l'hébreu. Bon, alors, Exode 4 et verset 1. Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Alors, il continuait d'argumenter ici. C'est encore un genre d'excuse. « Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Alors, ce n'est pas réellement une bonne attitude, ça, ici. Ce qu'il aurait dû dire, dans le fond, c'est « Bon, parfait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je procède? » Alors, Dieu leur a répondu, « Bon, c'est correct, alors je vais t'accorder cette extraordinaire puissance que tu vas avoir. » Ensuite, Moïse aurait dit, « Bon, je sais qu'ils vont me demander quel est Dieu, comment s'appelle-t-il, qu'est-ce que tu veux que je dise? » Et puis, ça aurait été fait avec un esprit différent. Dans ce cas-ci, ça a été argument après argument qui a fait en sorte que Dieu s'est servi de miracle après miracle pour être capable de lui montrer puis de lui convaincre. On parle du bâton en serpent, de la lèpre, etc. Alors, on poursuit maintenant au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alors, on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'on a dit qu'il était puissant en parole. Et maintenant, il se décrit, « J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alors, c'est, en fait, il a peut-être acquis énormément d'humilité, au point où maintenant il manquait de confiance en lui. Il y a des hommes qui n'ont pas l'occasion de parler pendant une très longue période. Ils vont donner un sermon à un moment donné, puis ensuite, ils n'en donneront pas pendant très longtemps. Il y a une période où, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de parler tant que ça. Ça fait, il y a ça environ 20 ans, un petit peu plus. Et il y a même une période où je n'ai même pas eu l'occasion de parler à la fête. Alors, on peut dire que c'est une expérience un peu différente quand vous êtes habitué de parler à 10 000 personnes, par exemple. C'est le genre de choses que nous faisions, parler pendant 75 minutes à 10 000 personnes, puis ensuite ne plus parler du tout. Comme je dis, c'est une expérience qui est pas mal différente de l'autre. Alors, j'étais habitué à parler toutes les années à la fête. Et puis, comme on dit, pendant un moment donné, je suis retourné à ma niche et je n'ai même pas donné de sermonnette. Alors, c'est quelque chose de pas mal différent. Ensuite, alors, je suis revenu, j'ai recommencé à parler. Et peut-être que les deux dernières années, je me souviens bien, dans l'Église universelle de Dieu, j'ai parlé à 5 ou 6 000 personnes. Bon, alors, oui, je pense que je comprends comment est-ce qu'on peut se sentir lorsqu'on ne parle pas pendant des années. Alors, je ne sais pas exactement comment il se sentait, comment il pensait, mais je sais que la Bible est la parole inspirée de Dieu et elle dit qu'il était puissant en parole. Puissant en parole. Et maintenant, il est à se demander, qu'est-ce que c'est que je vais dire? Comment dis-je? Je trébuche, j'hésite, je bégaye. Alors, peut-être qu'il pensait qu'il y a des choses dans mon esprit qui marchent mal ou qui ne vont pas bien, et puis je suis capable de comprendre un peu certaines choses, mais un des points qu'on est capable de remarquer, c'est qu'il n'était pas rendu encore avec cette douceur et cette patience. C'est évident en regardant son attitude. Par contre, lorsqu'on regarde la dernière partie de sa vie, ce dernier 40 ans, après que Dieu ait mis dans sa bouche le mort, la Bible le décrit comme étant l'homme le plus doux, le plus patient qui existait au monde. Autrement dit, tout ce que Dieu lui disait de faire, il le faisait. Alors, sur certains points, parfois, il me rappelle David. On ne regardera pas David ici, mais David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Et pourtant, il avait fait des choses absolument horribles. Et ce qui est important de se souvenir à propos de David et de Moïse, ce n'est pas la façon dont ils ont commencé, mais la façon dont ils ont terminé ce qu'ils ont fait. Et c'est la même chose en ce qui concerne votre vie. Ce n'est pas la façon dont vous avez commencé, ce qui a été remis entre les mains de Dieu quand vous avez été appelé par lui, mais comment vous avez complété votre vie, ou comment vous allez la compléter. Si je peux utiliser ces mots, il y avait un autre bel étalon, sauvage et indompté, un véritable cheval rétif de l'Ouest avant que Dieu ne commence à l'utiliser. Je parle ici de l'apôtre Paul. Cet homme avait tout. Il était né en tant que citoyen romain. Au moment où, attaché comme il était et préparé à être flagellé, Paul a laissé sortir ces quelques mots, ces quelques paroles. Il disait à la personne, « Est-ce légal pour toi de battre un Romain qui n'a pas encore été condamné? » En ce moment, celui qui était pour le battre s'est mis à balbutier. Il avait la gorge serrée, c'est sans doute ce qui l'empêchait de parler, car il s'agissait de quelque chose de très grave. Il s'est arrêté tout de suite et retourné vers ses chefs en leur disant, « Avez-vous réalisé que cet homme est un citoyen romain? » Et ça n'a pas été long. Immédiatement, ils ont dit, « Arrêtez cette punition immédiatement. » Dans un certain sens, c'est ce qui a commencé les dernières années difficiles de Paul. On sait qu'éventuellement, il en a appelé à César et qu'il a perdu ensuite sa vie. Mais tout ça était selon le plan de Dieu, parce que c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et si vous étudiez la vie de Paul, il s'agissait vraiment d'une personne absolument étonnante. Rappelez-vous qu'il s'agissait d'un Romain, un citoyen romain libre. Il était né ainsi. Et l'homme qui voulait le battre lui avait dit, « Mais comment est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait pour acquérir ça? Ça m'a coûté une très grosse somme d'argent pour être capable de l'obtenir, si vous vous rappelez l'histoire. Comment as-tu fait pour avoir une telle somme? » Il dit, « Je suis né citoyen romain. » Ses parents étaient citoyens romains. Alors, de toute évidence, Paul venait d'une famille qui était puissante. Et puis, on sait que ce n'est pas tout le monde qui réussit à se rendre à la Cour suprême des États-Unis. On parle des frères, les neuf. En fait, il y a des femmes maintenant, donc les frères et les sœurs. Sept frères et deux sœurs qui sont sur la Cour suprême. Paul était membre du Sanhédrin, qui était la Cour suprême de Juda. Alors, on peut dire que Paul avait des relations. Il faisait partie de la tribu de Benjamin, une tribu très importante. Il avait été instruit à Jérusalem. C'était un pharisien. Mais avant qu'on examine davantage ces choses-là, rendez-vous à Acte 26. Acte 26. Et essayons de voir clairement qui il était, ou de se nous prouver que c'était réellement un étalon sauvage ou une espèce de taureau brahma non dompté. Il s'agissait du merveilleux étalon qui pourrait éventuellement être dompté et changé. Voyez Acte 26, alors qu'il parle à Agrippa. Il avait déjà parlé à Félix et parlé aussi à Festus, et maintenant il parlait au roi Agrippa. Alors, ce dernier était avec son épouse, je crois que Festus devait être assis avec eux aussi. Alors, Acte 26 et au verset 9. Alors, il avait déjà reçu la permission de parler au verset 1, puis on lit au verset 9. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Il est en train d'expliquer pourquoi il était chrétien maintenant. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. » Alors, quand on parle de quelqu'un de féroce, on parle de quelqu'un qui avait du pouvoir, qui avait de l'influence, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Ceux-ci n'auraient pas donné ce pouvoir-là à Paul si ça avait été, comme on dit ici, un 2 de pique. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés, ou dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Essayez d'imaginer ce avec quoi Paul a été obligé de vivre pour le reste de sa vie. Il obligeait littéralement le peuple de Dieu à blasphémer. Il a dû vivre avec l'idée que certains, même, ont pu perdre leur vie éternelle car ils n'avaient pu supporter la torture. Dans mes excès de fureur, alors on ne parle pas là ici qui était seulement fâché, on parle de quelqu'un qui est devenu littéralement comme en pleine folie. Excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Je les ai suivis, poursuivis, contrôlés. Et c'est dans ce but que je me suis rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Je les ai poursuivis comme un chasseur de primes le fait, avec tous les pouvoirs à sa possession. Et il les ravageait, comme il le dit ailleurs. Il ravageait l'Église. Il avait consenti à la mise à mort d'Étienne. Alors, c'est ce qu'on appelle un homme féroce et sauvage. On ne parle pas de tuer un seul Égyptien ici, là. Rendons-nous à Philippiens 3. Philippiens 3. Alors, j'espère que tout cela vous inspire un peu, frères et sœurs, et que vous allez être amenés à comprendre un peu ce que ça signifie que d'avoir cet esprit de douceur-là, de vous donner à Dieu, de vous remettre entre ses mains afin que les ressources, vos talents et vos habiletés qui sont en vous et qui peuvent servir de contribution à son œuvre puissent être utilisées. J'ai déjà dit que Dieu pourrait encore aller chercher d'autres ministres. Il pourrait oindre leurs yeux. En passant, nous devons être prudents. Permettez que je fasse la remarque suivante. Nous devons être très prudents. Et c'est quelque chose que j'ai dit régulièrement. Nous acceptons ceux qui possèdent ces talents, ces habiletés, cette formidable expérience, cette capacité de faire une importante contribution à l'œuvre, mais qui, pour l'instant, sont encore dans la Odyssée, en train de se frapper le nez sur les murs, de renverser les meubles parce qu'ils sont aveugles, et qui disent, « Oh, il va falloir que je me mette sous leur autorité. Il me semble que c'est pas correct. » Croyez-vous? Êtes-vous certain de cela? Car si Dieu décide d'aller les chercher au moment où il choisira, les ayant réservés jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit il y a plusieurs mois, et que nous soyons prêts à les accueillir dès maintenant, parce que je le répète, Dieu sait que nous allons avoir des changements merveilleux, dramatiques et extraordinaires pendant les 18 prochains mois. Et Dieu doit nous envoyer des ministres, sinon il devra interrompre le plan avant qu'il ne soit trop avancé. Si tout à coup ils joignent leurs yeux, pleinement, de la manière dont Dieu veut qu'ils le fassent, comme cela pourrait arriver à un ou deux ou plusieurs ministres à l'extérieur, le résultat est que vous avez tout à coup cette merveilleuse utilité. Pensez-vous que Dieu pourrait ne pas réutiliser certaines personnes qui, tout à coup, sont devenues, à un moment donné, confuses sur les doctrines, simplement parce que, tout à coup, un autre air de l'Église est venu, ils ne savaient pas quoi faire ou où aller. Ils ont peut-être pensé que nous étions le mauvais endroit où aller, parce qu'ils avaient entendu, entre autres, des histoires à mon sujet. Dieu a utilisé Paul. Il a utilisé des meurtriers. Il a utilisé des êtres humains horriblement et totalement hors de contrôle. David, Moïse, Paul, et combien d'autres? À coup sûr, Dieu peut utiliser d'autres hommes. Et bien entendu, nous aussi, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous faisons mieux de nous soumettre à Dieu s'il veut réellement utiliser quelques-uns de ces hommes-là. Mais je peux dire que j'ai certaines connaissances vraiment intéressantes à propos de choses qui sont en train de se dérouler. Je ne suis pas sûr de comprendre la totalité, mais je suis assez attentif pour savoir qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare, possiblement. Et il va être nécessaire que ça se produise rapidement, parce que Dieu a des pasteurs, et nous avons besoin de pasteurs partout à travers la planète. Donc, c'est un petit peu une note que je viens d'ajouter au sermon principal ici. Considérer ce que je viens de dire un peu comme un aparté que j'ai ajouté parce que ça s'ajustait très bien au sermon. Alors, rendons-nous dans Philippiens 3 et au verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Je n'ai pas besoin de dire plus, autrement dit. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. On peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en a fait mettre à mort, il en a mis en prison, il en a torturé, il en a poussé à blasphémer, il les a poursuivis partout alentour, partout dans toutes les villes alentour. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et le mot « boue » ici, qui est un mot inspiré, en grec, « skubalon », est un mot qui signifie « des excréments ». C'est comme ça qu'ils considèrent ça, afin de gagner Christ. Et c'est le genre, c'est la façon dont nous devrions être capables de regarder nos vies, comme Paul le faisait. Humainement parlant, Paul avait bien des choses en sa faveur. Il avait toutes les meilleures références qu'on puisse avoir. Mais tournons maintenant à Acte 9. Et là, on voit que les choses commencent à changer. Acte 9. Nous avons lu au chapitre 26 qu'il était en route vers Damas. Alors, voyons ce qui est arrivé sur la route vers Damas. On se souvient, poursuivant les gens dans les villes étrangères, pourvus d'autorité. Commençons au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, est-ce qu'il y a seulement quelqu'un dans les Écritures qu'on est capable de comparer à Paul en ce qui a trait à sa façon de considérer le peuple de Dieu? Il a littéralement une folie meurtrière. Les disciples du Seigneur se rendirent chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Alors, il ne faisait pas de discrimination comme persécuteur. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. C'est difficile de combattre Dieu. C'est très difficile. Moïse aussi essayait de combattre Dieu en argumentant. Dieu essayait de le guider, hein, en le piquant d'un côté et l'aiguillant dans l'autre. « Tu vas faire ci, puis tu vas aller là. » Et on poursuit au verset 6. « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Regardez ça ici. Quel virage étonnant. C'est incroyable. Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est certainement le 180 degrés le plus rapide et le plus significatif de l'histoire. Cet homme avait la vapeur qui lui sortait par les narines à cause de sa colère. Ce bœuf d'Afrique qui fonçait vers Damas pour aller capturer des gens et attacher des femmes, alors c'était horrible. Mais d'un coup sec, immédiatement, aplati complètement, « Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et il l'a fait. Étonnant. Il est venu sous le contrôle de Dieu. Dieu était tout simplement en train d'attraper Paul au lasso et de lui ajuster une selle. Et tout cela parce qu'il avait un dessein absolument incroyable en vue pour lui. Un dessein incroyable. Une des raisons pour lesquelles Paul a écrit des choses difficiles à comprendre est parce qu'il avait un intellect absolument brillant. Oui, je sais qu'il s'agit des paroles de Dieu, mais Dieu travaille avec des hommes différents et de manières diverses. Mais cela nous donne quand même toujours des Écritures parfaitement inspirées. Et puis, ce ne sont pas des choses vraiment difficiles à comprendre, comme je l'ai dit la semaine dernière. Si vous avez lu Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean et Jude, avant de lire les écrits de Paul. Et bien sûr, les quatre évangiles, comme on les appelle, et les actes avant ça. Ce ne sont pas des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre en ce moment-là. Mais Dieu savait que Paul devrait être lu sans doute plus tard, une fois que tous les fondements, la fondation avait été placée. Mais Satan était d'un avis contraire. Nous allons d'abord mettre les Romains en premier. Comme ça, on va être sûr de confondre tous les gens, les mélanger. Donc, avec tous ces passages difficiles-là, nous allons sans doute être capables de nous débarrasser de cette loi. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6 maintenant. Rendez-vous à 1 Corinthiens 6. Alors, 1 Corinthiens 6, pardon, et au verset 20. Alors, c'est une chose que Paul a dû apprendre. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous m'avez entendu dire ceci depuis des années, si vous êtes avec nous depuis longtemps. Nous avons été achetés et payés à prix fort par Dieu. Combien de fois essayez-vous de reprendre les rênes des mains de Dieu? Si c'est ce que vous faites, alors c'est comme un cheval qui tourne la tête et les enlève des mains de son cavalier. J'ai vu cet éléphant à la télé il y a environ un an. Alors, c'était quelque chose qu'ils avaient réussi à mettre sur film. Il s'agissait d'une femelle éléphant. Et vous aviez un homme qui était son cornac, hein, son maître. Et il y avait aussi d'autres éléphants alentour. Et il a dû avoir quelque chose qui l'a menacée parce que tout à coup, elle s'est retournée. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu aux Nouvelles Nationales. Là. Et puis, tout à coup, la femelle se dirigeait vers lui. Et puis, il a vu qu'elle était en colère contre lui. Alors, il s'est sauvé. Il a essayé de se rendre de l'autre côté de cette clôture qu'il y avait là. Et elle continuait. Et au moment où il essayait de fermer cette clôture-là, elle a frappé la clôture et l'a envoyé voler à une vingtaine de pieds contre un mur de pierre plus loin. Alors, l'homme criait, pleurait, puis la femelle s'en allait vers lui, là, puis il s'approchait. Les autres, bien entendu, alentour criaient et essayaient d'attirer l'attention de l'éléphant. Et juste au moment où elle était pour le frapper puis arriver sur lui, tout a cessé. Elle a arrêté net. Et l'homme était littéralement paralysé par la peur. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu, ça, aux Nouvelles Nationales. Autrement dit, l'homme criait et pleurait parce qu'il savait qu'il était pour mourir. Puis tout à coup, elle continue, tout en pensant aux autres qui criaient aux lettres après elle. Alors, elle essaye de donner un coup de patte, l'écraser. Elle a raté son coup. Alors, l'homme a essayé de se relever. Puis là, elle le voit, puis elle lui donne un coup de trompe. Encore une fois, elle l'envoie, il a volé encore une fois dans les airs. Puis à un moment donné, sans doute, l'éléphant est devenu plus ou moins confus. Alors, l'homme a réussi quand même à s'en survivre, à se sauver. Alors, assez étonnant ici, de voir tout ça comme ça directement à la télé. Alors, le même genre de choses peut arriver pour nous. On peut être un genre d'éléphant qui travaille pour Dieu avec puissance, ou tout simplement nous détourner et complètement perdre la tête. Il est possible pour nous, encore une fois, arracher les rênes des mains. Alors, rendons-nous dans Romains 12 maintenant. Romains 12 et au verset 1. Vous souvenez-vous de ces versets, frères et sœurs? Et si oui, est-ce que vous y pensez souvent? Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous devons être prêts. Il y a des choses incroyables qui vont arriver. Il ne nous reste pas plusieurs années, j'en suis convaincu. Les Chinois ont envoyé un missile hier et ont fait sauter un de leurs vieux satellites en millions de morceaux. Ce qui cause un certain problème, car vous avez maintenant tous ces morceaux qui se promènent en moyenne à plus de 8 km par seconde. Alors, 8 km par seconde, c'est plus rapide que des balles, ça. Et ces pièces-là vont détruire d'autres satellites maintenant, satellites scientifiques, météorologiques ou militaires. Juste ça constitue un problème. Mais ce qu'on doit maintenant se demander, c'est faisons-nous face à une nouvelle sorte de course aux armements provoquée par cette immense superpuissance. Vous avez vu la couverture du Times Magazine cette semaine? C'est une énorme étoile rouge, une étoile rouge géante. Il n'y a jamais eu de nation comme la Chine. 1,3 milliard de personnes. Lorsque mon père est né en 1920, il n'y avait qu'un petit peu plus de ce total d'habitants sur la Terre entière. Tout cela moins d'un siècle déjà. En fait, en 1920, donc ça veut dire 87 ans. Alors, c'est quelque chose qui est tout de même assez incroyable, vraiment incroyable. Si je me souviens bien, je peux peut-être me tromper, mais il y avait, je crois, quelque chose comme 1,8 milliard à cette époque-là. Bien sûr, si vous ajoutez la population de l'Inde maintenant à ça, alors vous avez énormément plus que la population de cette époque-là, les deux ensemble. Alors, ensuite, vous avez l'Iran. Là où on voit qu'il y a des problèmes absolument insolubles, partout d'ailleurs au Moyen-Orient. Nous avons une division terrible au sein même du gouvernement des États-Unis. Et l'orateur de la Chambre, hier matin, a accusé le président des États-Unis d'avoir une raison particulière, vraiment d'avoir une raison, un motif particulier pour mettre nos troupes en danger en Irak. Et bien entendu, la Maison-Blanche a rétorqué immédiatement en disant qu'elle était empoisonnée, que c'était des paroles empoisonnées. Alors, ce sont des paroles quand même assez fortes. Et bien entendu, l'esprit qui existe entre les démocrates et les républicains, c'est un esprit empoisonné. Alors, nous sommes en présence d'un gouvernement divisé et paralysé. Et on se demande, est-ce qu'ils vont couper les fonds? On ne sait pas. On va le savoir dans pas tellement longtemps. Alors, vous avez d'un côté un président qui est fortement déterminé, et nous avons une majorité démocrate également très déterminée, et qui a des plans et une vision très différentes. Les États-Unis sont tout simplement trop stupides pour comprendre. Et on sait que Dieu retient les choses présentement. Dieu empêche les maladies pendant encore un certain temps. Il va le faire jusqu'à ce que cette œuvre que nous accomplissions soit complétée. Alors, Romains 12 et verset 1. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Autrement dit, Dieu n'est pas intéressé à ce que nous pouvons faire pour son œuvre. Il est intéressé à ce que nous pouvons faire pour son œuvre si il travaille en nous pour l'accomplir et que nous lui obéissons. Si nous faisons ce qu'il veut, il y a une différence. Autrement dit, Dieu est très intéressé à ce qu'il peut faire pour son œuvre par notre intermédiaire, à travers nous. Et cela, c'est si nous n'essayons pas de lui arracher les rênes de la main, parce que nous avons le libre arbitre. Dieu n'a pas du tout d'intérêt dans ce que vous pouvez faire pour son œuvre. Par contre, il est totalement intéressé et engagé par ce qu'il peut faire pour son œuvre si nous nous enlevons du chemin. C'est alors qu'il est capable d'utiliser les talents et les expériences des gens. Plusieurs des hommes qui seront sollicités et à qui on dira qu'ils ont les capacités d'entrer dans un programme intensif pour devenir des pasteurs à plein temps vont être étonnés, parce qu'ils n'ont jamais imaginé que leur vie ne consisterait qu'à faire ce qu'ils font présentement. Mais Moïse a sans doute pensé qu'il prendrait soin des brebis les derniers 40 ans de sa vie aussi. Et Paul pensait sans doute également que sa vie aurait une toute autre direction. Mais tout cela a changé le jour où, tout à coup, il n'a pas été capable de voir pendant 3 jours de temps et que Christ lui a parlé. Ça l'a changé complètement et de façon permanente. Donc, maintenant, si vous voulez penser et imaginer qui est la personne la moins douce et la moins patiente de l'univers, le meekness, comme on dit, meekless, alors c'est Satan. Il est totalement sauvage, totalement entêté, totalement arrogant, totalement déterminé à contrecarrer le dessein de Dieu de toutes les façons possibles. Et il comprend que la façon de pousser les gens à haïr la douceur et la patience, qui sont contraires de son caractère insoumis, car il a du caractère, mais il est totalement mauvais. Mais il a du caractère, oui. Alors, c'est d'associer douceur avec faiblesse. Quiconque regarde la vie de l'apôtre Paul, qui parle constamment d'humilité, sait que cela n'a rien à faire avec la faiblesse. Quiconque regarde la vie de David et qui constate ce que David a fait, se rend compte que la douceur n'a rien à faire avec la faiblesse non plus. Et bien entendu, la même chose pour les Moïse et pour les autres grands personnages de la Bible. Pierre était impétueux. Il parlait beaucoup. Il a dû être abroué plusieurs fois. Et il a appris plusieurs leçons. Si on pense à Matthieu 5:5, qui cite, je crois, psaume 37, « Est-ce que vous croyez que Dieu permettrait aux faibles d'hériter la terre? » La version King James dit « Les doux hériteront la terre. La version seconde parle des débonnaires, des doux. Dieu n'a pas dit, je vais me trouver toute une bande de mous, d'incapables, des gens qui n'ont pratiquement aucune force mentale, et c'est eux qui vont être les chrétiens. C'est la façon dont Satan veut qu'on perçoive les chrétiens, par exemple. Et c'est souvent ainsi que les gens voient les chrétiens, comme des mauviettes, trop faibles pour vivre leur vie sans la béquille d'un Dieu. C'est comme ça. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui considèrent les chrétiens comme étant d'une religion à béquille. Ils voient plusieurs religions où les gens mettent leur confiance en un Dieu quelconque, un Dieu qui n'existe pas, comme étant une béquille. Ils pensent qu'ils sont trop faibles pour réussir dans la vie par eux-mêmes. Alors, ils doivent inventer un Dieu vers qui se tourner et de qui ils croient qu'ils recevront de la puissance par un artifice psychologique fictif quelconque. Ils croient que ces gens, en fait, ne recevront qu'un placebo. Mais comme ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils pourront réussir leur vie à cause de cela et réussir à atteindre ce qu'il y a au-delà de la vie. Vous seriez surpris de savoir combien de millions de personnes considèrent les gens impliqués dans la religion, particulièrement le christianisme, comme des faibles, des peureux, des maladroits qui ne sont pas à la hauteur. D'où croyez-vous que cela origine? Cela provient de la personne la moins débonnaire de tout l'univers, la personne la plus sauvage, celle qui est absolument impossible à harnasser. Lucifer, le destructeur, Satan, le diable, celui qui est appelé par toutes sortes de noms dans la Bible. Meurtrier, accusateur des frères, père du mensonge et combien d'autres. Vous êtes absolument incapable de le contrôler, incapable de le harnasser. Mais on doit dire qu'il n'a pas encore été lié. Un jour, il va être lié. Mais remarquez que ça ne changera pas son caractère. Mais on peut lier une personne comme ça. Et dans un certain sens, c'est une personne aussi. Rendons-nous en Jude 6. Alors, Jude au verset 6, et on parle des anges ici, vous allez voir, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, les anges seront jugés, et ils seront éventuellement liés, attachés, mais ils ne seront pas domptés. Ils ne seront pas capables de se soumettre à Dieu. Ce ne sont pas des êtres soumis. Alors, vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière, ils savent que Dieu existe et ils en tremblent. Et on peut dire que la majorité des chrétiens, et je mets ça chrétien entre guillemets, ne tremblent pas vis-à-vis grand-chose et ils ne tremblent certainement pas à la pensée de Dieu. Par contre, les démons, eux, tremblent. Et c'est pourquoi je dis que les démons sont en gros, plus converti que le chrétien moyen qu'on trouve dans le monde. Les chrétiens ne tremblent absolument pas vis-à-vis de la parole de Dieu, mais les démons, oui. Alors, c'est à vous de me dire, c'est qui semble le plus converti. Dieu nous dit de travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Et je crois que c'est le psaume 2 au verset 11 qui dit la même chose. Savez-vous qu'il y a des gens à l'extérieur qui tremblent réellement? Agrippa, qui n'était même pas un chrétien. Et si j'avais lu plus loin dans Actes 26, j'aurais pu vous montrer qu'à un certain moment, lorsqu'Agrippa écoutait Paul, ce roi commença à trembler. Il tremblait devant les paroles que Paul prononçait. Puis un peu plus loin, il lui disait, « Tu as quasiment réussi à me convertir, à me faire devenir chrétien. Tu m'as presque persuadé. » Vous vous souvenez peut-être de ce fameux cantique protestant intitulé « Almost Persuaded » que plusieurs d'entre vous avaient peut-être chanté. Je me souviens, moi, l'avoir chanté à l'église presbytérienne. Il est basé sur le passage relatant la conversation entre Paul et Agrippa. Agrippa, entendant que Paul avait été jeté par terre sur la route de Damas, lui a dit « Tu m'as presque persuadé de devenir chrétien. » Je crois que son épouse Fernice était juive. La femme de Festus aussi, Priscilla, était juive. Alors, c'est tout de même étonnant. Ce roi tremblait en présence de bien d'autres personnes dans la même pièce. Le passage nous montre qu'il y avait beaucoup de formalisme et de pompe au moment où Paul est entré. On ne tremble pas en écoutant quelqu'un qui est en train d'être jugé. En fait, il n'était pas son juge, il était roi. Et Paul avait déjà fait appel à César. Il était trop tard pour qu'on puisse intervenir à sa faveur. Dès que vous avez fait appel, ça doit se poursuivre. Cela est arrivé de toute façon parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Agrippa disait, « Savez-vous, je crois que je l'aurais libéré. Je l'aurais libéré. Mais c'est impossible. Il a fait appel à César. » Est-il devenu un chrétien? Non. Il était presque persuadé. Presque. Donc, en ce qui nous concerne, frères et sœurs, nous devons absolument nous soumettre à Dieu. Nous devons trembler devant lui, et cela doit être suivi de soumission. Et on parle des femmes aussi, pas juste les hommes. 1 Pierre, chapitre 3. Alors, bon après-midi à tout le monde. Avant de commencer le sermon, j'aimerais peut-être faire un petit commentaire concernant l'offrande spéciale. Pour le moins qu'on puisse dire, frères et sœurs, c'est que ça se présente très bien. Alors, je me rappelle la deuxième fois où nous avons eu une offrande spéciale, j'avais été surpris de la façon dont, en fait, surpris agréablement de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Les gens avaient été encore plus généreux avec moins de temps. Le pourcentage d'augmentation de la deuxième offrande par rapport à la première avait été plus grand que le pourcentage de croissance dans l'Église. Alors, si je me souviens bien, nous avons eu notre première offrande à la fin de 2002 jusqu'au début de 2003 et la deuxième à la fin de 2004 et au début de 2005. Ensuite, nous avons cette troisième qui, je crois, sera la dernière avant la toute dernière qui sera juste avant que nous fuyions. Alors, nous avons cette troisième ici, fin 2006-2007, et nous devrions...